Bonjour, je m'appelle Guillemette, je suis journaliste à Ombres et Lumières, média spécialisé dans le handicap. Bienvenue dans le podcast La Lumière d'une rencontre, réalisé avec le soutien de la Fondation OCH. Tous les deux mois, je vous propose de rencontrer quelqu'un de concerné par le handicap ou la maladie, ou qui y est sensible. Le thème de l'épisode est toujours en lien avec le numéro d'Ombres et Lumières en cours. Ce témoin nous partagera son histoire, parfois traversée par l'épreuve, et les chemins que la vie a pris pour la dépasser. Bonjour Claire Dirks.
Bonjour Guillemette.
Merci de me recevoir chez vous à Bruxelles, en Belgique. Et vous avez 29 ans et êtes juriste dans une agence immobilière. Si je vous rencontre aujourd'hui pour notre podcast, c'est pour vous faire témoigner d'un sujet ô combien délicat, qui est celui de l'euthanasie. Le débat pour l'égalisation a refait surface en France mi-septembre, après un avis favorable émis par le Comité consultatif national d'éthique, qu'on appelle le CCNE, dans le cas de maladies incurables et dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. Chez vous, en Belgique, l'euthanasie est autorisée depuis 2002, donc il y a 20 ans. Et vous, il y a tout juste 2 ans, le 17 novembre 2020, votre père y a recouru. Il avait 55 ans et votre père était atteint d'une maladie neurodégénérative. Et plusieurs membres de votre famille sont touchés par cette même maladie. Et c'est d'ailleurs le cas de votre sœur jumelle et de vous-même. Pour vous, les premiers signes de la maladie sont arrivés quand vous aviez 18 ans. Et de manière plus concrète, vous perdez petit à petit la vue, un peu en manque de coordination. Et vous vous déplacez avec un déambulateur appelé Victor, je ne me trompe pas. Donc peut-être pour un peu comprendre le contexte et petit à petit rentrer dans votre histoire, on va y aller par étapes. Est-ce que peut-être vous pouvez d'abord décrire aux auditeurs un peu l'ambiance familiale dans laquelle vous avez grandi, un peu le contexte?
Alors, on est 5 enfants. Moi, je suis la deuxième, troisième, parce que j'ai une sœur jumelle. Une chose importante, c'est que jusqu'à mes 9 ans, mes parents étaient dans une communauté religieuse. Et donc, on a une vie chrétienne très enracinée, on va dire. Et puis, c'est vrai qu'après, en tout cas, chacun, on a fait notre chemin de foi, on va dire. Et en fait, à 9 ans, on a appris que notre papa était malade. Et c'est vrai que ça a été une grosse claque dans la famille, mais on sent que ça a été compliqué depuis toujours avec mon papa, parce qu'il a été fort, il avait un caractère assez qui prenait beaucoup de place, et donc c'est sûr que la question de la souffrance et a souvent été impactante.
Donc, il avait 37 ans, c'est ça, je crois.
Oui, c'est ça.
Quand il a eu les premiers signes.
Oui, il avait 37 ans.
Et comment, vous étiez enfant, comment on peut à la fois vivre sa vie d'enfant et en même temps, en effet, avoir cette souffrance un peu palpable juste à côté de soi?
Je me souviens pas hyper fort de quand on était enfant, donc je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Comme je dis, juste c'est que ça a pris quand même beaucoup de place, quoi. Donc c'est sûr, je sais pas trop dire quoi dire, parce que quand on est enfant, on a tous des blessures, en fait. Donc on essaye tous de grandir, et au final ça a été c'est important, hein. C'est sûr que c'était un gros choc d'apprendre que son père allait peut-être mourir quand j'étais jeune, mais à la fois, du coup, ça apprend beaucoup à quel point aussi Dieu est important, parce qu'en fait, tout peut disparaître, tout.
À ce moment-là, vous aussi, vous êtes croyante,
Non, justement pas. C'est juste que je me rends compte que avec les années, ben, je revois mon enfant, c'est quand même joué de voir que les choses peuvent disparaître rapidement. Et comme à 18-19 ans, je suis partie au CMJ. Disons que...
Les Journées mondiales de la jeunesse.
C'est voilà. Ça. Et puis, petit à petit, je me suis fait beaucoup d'amis chrétiens. Et puis, j'ai fait aussi tout un parcours personnel. Mais du coup, c'est sûr que petit à petit, Jésus est vraiment devenu mon compagnon de route, quoi. Et c'est vrai que le fait d'avoir grandi depuis longtemps avec un père malade et très dépressif et très... Ouais. Et puis moi, petit à petit, de voir que cette maladie me touchait aussi, mais, ouais. Je crois que ça a permis aussi peut-être à Dieu à encore mieux que je sois encore plus ouverte à sa présence, on va dire. Parce que malheureusement... souvent, on a quand même besoin d'une claque pour le voir. Et je sens que ça m'a un peu aidé à me dépouiller plus rapidement et de voir que j'ai besoin de lui. Ouais.
Ok, tout un chemin. Et on reparlera en effet de quand vous apprenez aussi de votre côté que vous êtes touché par cette même maladie. Mais on va revenir en 2020. Voilà, un jour, votre papa vous réunit en famille et vous annonce qu'il a demandé l'euthanasie. Enfin, je ne sais pas si ça se passe exactement comme ça, mais vous allez nous raconter. D'abord, pourquoi est-ce qu'il en arrive à cette demande? Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce qui s'est passé aussi? Vous parlez de dépression, mais est-ce que vraiment il y a eu quelque chose dans sa vie qui a fait qu'il n'en pouvait plus? Et voilà, face à cette demande qu'on imagine... tel un tsunami dans une vie, comment vous avez réagi?
C'est une bonne question, et à la fois je me rends compte que c'est difficile de parler à la place de quelqu'un. Et fondamentalement, non, je ne comprenais pas sa réaction, parce que depuis tellement d'années avec ce proche, on s'est tous avec lui battus pour qu'il choisisse la vie. Donc, c'était violent qu'il nous annonce qu'il en est complètement marre, quoi. Que maintenant, il arrêtait. Et j'ai beaucoup prié, beaucoup demandé d'intercéder parce que je voulais pas y croire, en fait. Moi, j'avais besoin qu'il continue à se battre pour choisir la vie, en fait. Oui. Parce qu'on est tous épuisés, et découragés et fatigués de vivre, en fait. Et avec cette maladie, c'est vrai que très souvent, je comprends énormément, en fait, cet épuisement et ce trop, quoi. Il y a un moment, on voit pas pourquoi on continue, mais moi, je m'en compte. J'ai besoin d'avoir des personnes en face qui aient l'audace d'espérer, qui m'écoutent dans ma souffrance, mais qui me disent, mais en fait, c'est pas une solution, la mort. Enfin, non, justement, c'est croire qu'on arrête tout, mais justement, ça ne permettra à personne... ni à Dieu, ni aux autres, enfin à personne, ni à toi-même, de changer, quoi. Alors que jusqu'au dernier instant, il y a quelque chose à vivre, quoi. Ça, j'en suis persuadée et je le vois de plus en plus. Et moi, avec cette maladie et tout, mais petit à petit, depuis plus de 10 ans, tout qui disparaît chaque fois un peu plus fort, ben, c'est sûr que c'est un peu... dépouillant et décourageant et fatigant et tout ce qu'on veut, mais je vois aussi que moins objectivement je suis dans la vie et plus intérieurement je suis en vie. J'ai l'impression que la vie est peut-être beaucoup plus profonde, quoi. Et c'est sûr que d'avoir la foi que j'ai et la relation que je construis avec Dieu, ben, ça m'aide peut-être à écouter vraiment ce qu'il y a au fond de moi. Mais je pense qu'on a tous un trésor au fond de nous et c'est tellement triste quand on dit stop, on veut plus en fait. Parce que ce trésor jusqu'à la fin, même quand on n'a plus rien, même quand on souffre tellement qu'on perd tout, mais il y a encore quelque chose à recevoir, quoi. Parce qu'on a envie, en fait. Et si on a envie, c'est pas pour mourir, en fait. Il y a vraiment quelque chose à vivre, quoi. Enfin, et si on est entouré de gens, c'est pour vivre dans l'amour aussi. Et, je pense qu'on a beaucoup de choses à donner, à recevoir des autres. Et c'est beaucoup trop triste de pas le permettre, quoi.
Et ce cri là que vous nous donnez à entendre, est-ce que vous arriviez à en parler avec votre papa? Enfin, est-ce que vous avez eu des conversations un peu de cet ordre là ou
quand il nous a annoncé qu'il voulait en finir après un mois et demi? Il a vraiment été piqué et depuis le début j'étais révoltée, mais c'est évident que là ça fait 2 ans que ça s'est passé et que du coup mon discours est beaucoup plus construit et je sais pas comment dire, réfléchi peut-être, parce que c'est sûr que là j'étais surtout à chaud de me dire mais en fait non. Mais je sentais au fond de moi que non, mais il m'a tellement dit plusieurs fois en me suppliant de le laisser tranquille et de lui faire confiance. Et puis j'ai beaucoup prié et puis j'ai vraiment senti, bon Seigneur, tu es notre père à tous, mais maintenant c'est ton enfant, quoi. Et c'est toi qui t'occupes de lui, quoi. Et on est tous libres, quoi. Et c'est sûr que c'est dur à accepter, mais voilà, j'ai l'impression d'avoir dit ce que je pensais à mon père, de lui avoir montré qu'il y avait peut-être d'autres possibles, mais on est tous libres face au mystère de la vie, hein, et au final, c'est lui qui choisit ce qu'il veut faire. Mais c'est sûr que mon rêve de fille qui a la même maladie que lui, ça aurait été continuer à se battre avec nous.
Et en effet, vous dites qu'il y a eu un mois et demi entre l'annonce et ouais, le jour.
Ça aussi, ça a été une chose très violente pour moi. Parce que. Enfin. C'est pas. Enfin. Mais c'est vrai que quand il a. Quand mon père a annoncé qu'il voulait en finir, comme il allait demander l'euthanasie, je me disais, ok, la loi demande plein d'accords, plein de rendez-vous, enfin, donc ça va prendre beaucoup de temps, en fait. Et en fait, j'étais vachement étonnée, mais en une semaine de son cri, il a contacté une médecin qui pratique l'euthanasie, et dans 3 semaines après, il était piqué, quoi. Et j'avais l'impression que c'était un chien compliqué, quoi. J'étais là, mais on parle de la vie de quelqu'un, en fait. Enfin, et j'étais un peu... Mais je crois que... Quand je parle aux gens qui sont pour l'euthanasie, en fait, c'est souvent, malheureusement, un soi-disant... grand désir d'amour et de compassion, quoi. Mais en fait, il y a aucun, enfin, c'est pas mais c'est pas jugeant, parce que moi la première je comprends tellement, mais c'est pas de l'amour en fait de montrer à l'autre que en effet mon pauvre petit chéri, t'as raison, la seule solution c'est de mourir, mais en fait c'est horrible, t'as aucune espérance pour lui, montre-lui que sa vie vaut la peine d'être vécue, parce que c'est pas juste lui montrer toi, c'est vrai. Il y a quelque chose à vivre, quoi. Il y a quelque chose à donner, à recevoir, et ce serait trop triste que tout son entourage ils soient convaincus qu'en fait, c'est vrai qu'ils jettent l'éponge. De toute façon, il n'y a pas d'autre possible. Mais c'est pas vrai, en fait. Arrêtons de croire que la vie doit être exactement comme on l'avait imaginé quand on était dans le berceau. Enfin, malheureusement, il n'y a pas une seule vie, je crois, qui est comme ce qu'on avait imaginé, pas une seule. Mais souvent, les différences nous font vraiment grandir, quoi. Il y a essayer d'accueillir la réalité plus qu'essayer de la changer. C'est une belle source de paix.
Oui, donc on imagine la violence d'autant plus que c'est en effet extrêmement rapide ouais. La manière dans laquelle ça a été fait. Et d'autant plus peut-être compliqué que je crois me souvenir qu'au sein de votre famille, vous faites un peu partie, vous êtes la seule ou vous faites partie des seules à être plutôt opposée, voilà, enfin complètement, farouchement opposée. Mmh. Tous vos frères et sœurs, votre maman, sont plutôt, accueillent entre guillemets favorablement.
En fait, je pense que, bah, comme j'ai déjà dit, j'aime pas répondre à leur place et je veux pas dire qu'ils sont pour ou contre, mais après objectivement c'était une maladie qui a duré des années, donc un épuisement de ce monde. Donc c'est vrai qu'à un moment il a tellement menacé qu'il voulait en finir que c'est vrai que le fait qu'il dise ok, là maintenant c'est bon, je veux vraiment en finir, ben je crois que mon désir aurait été que tout le monde se lève et lui dise mais non. Mais je comprends que aussi par un peu épuisement général de ses proches, en tout cas, ne sache pas quoi lui répondre. Et moi, face à son cri, en fait, comme ma famille, j'étais aussi fatiguée, en fait. Mais le fait de moi avoir la foi, j'ai aussi beaucoup prié pour ça. Et le fait de me rappeler que toute vie humaine, tous, mais même la qu'on considère comme la pire, c'est un enfant de Dieu. Donc elle doit être protégée jusqu'à la fin, quoi. Mais le fait de croire en Dieu, ça m'a donné peut-être cette force d'avoir plus loin, mais je crois vraiment que même si on n'a pas conscience que Dieu nous a créés, notre vie est précieuse, quoi. Peu importe pour qui, en fait, elle mérite d'être vécue, quoi.
Oui. Sans être croyant, le fait que toute vie a un prix. Ouais. Et on peut le ressentir dans n'importe quel, dans notre chair, même si on n'est pas croyant, quoi.
Ouais, vraiment.
Et donc arrive donc ce 17 novembre 2020. Est-ce que à ce moment-là vous êtes tous réunis à l'hôpital? Enfin, comment ça se passe un peu ce jour-ci?
En fait, on était tout a été fait à la maison parce que papa voulait ça, mourir chez lui. Ce qui a été un peu choquant. Enfin, très choquant pour moi, c'est que la médecin qui l'a piqué, comme elle s'y connaît bien, c'était un peu toute une mascarade pendant 4 jours pour sa mort, ouais. Mais j'ai trouvé ça un peu... Ça s'est fait un mardi, et donc le samedi, c'était la dernière journée avec ses amis. Le dimanche, c'était la dernière journée en famille. Et le lundi, c'était une journée seule où il était avec lui-même. Mais donc, tout était organisé. Et puis, ouais, c'était un peu... j'ai l'impression qu'on préparait un mariage. Alors que, je vois ça. Et puis, c'était bizarre. Juste avant que ça arrive, on se retrouve dans le salon pour une dernière conversation. Et puis après, il est monté avec les médecins et les gens qui voulaient l'accompagner pour le piquer. Mais c'était trop bizarre parce que on lui dit au revoir et puis 2 minutes après, il est mort, quoi. Enfin, C'est juste c'est absurde, en fait. Et quand je suis montée le voir dans sa chambre, j'ai parti de crier, quoi. Et j'étais tellement choquée. Et quand je l'avais dans les bras, juste avant qu'il monte, j'étais vraiment dans le cœur, mais si tu savais le ton de Dieu. Et moi aussi, hein, je me répète tout le temps, parce que je me rends compte que cet épuisement et ce découragement est tellement présent. Mais c'est tellement plus fort, cette conviction de se rappeler que notre vie est trop, beaucoup trop importante, en fait. Et jusqu'à la fin, en fait, c'est un mystère, en fait. Donc on peut pas l'éteindre, quoi. Je crois que l'accompagnement, déjà, c'est pas un accompagnement en tant que tel, mais le fait d'en témoigner, je sais pas, je sens que on m'a demandé souvent d'en témoigner, en fait, mais ça m'a tellement révoltée, cette histoire, que c'est vrai que ça a réveillé en moi une grande envie de crier, quoi, et de réveiller, qu'on se réveille, quoi. Hein. Ça m'a un peu bouleversée. Et, mais ce qui est chouette, c'est que je sens que quand c'est arrivé, j'avais une colère assez dévastatrice. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est une colère qui reste, mais qui me pousse à être plus en vie, quoi. Donc ça, c'est chouette.
Une colère qui te perd comme un moteur un peu, mais un bon moteur.
J'ai l'impression, c'est de me dire, mais tout est de Dieu, mais en même temps, il a besoin de nous pour nous réveiller. Et donc, pour ça, je me dis, bon, allez. Ça, je peux faire un peu, d'essayer de parler un peu. Et c'est sûr que, du coup, pour parler d'accompagnement, mais je me suis quand même entourée d'amis qui me comprenaient, qui me faisaient du bien. Mais c'est sûr, je pense que ce qui est dur dans la souffrance, c'est la solitude, quoi. Parce que, on va se mentir, on peut s'entourer de tous les gens qu'on veut. Au final, c'est à toi à se battre contre tes noirceurs, quoi. Et c'est ça qui est dur, je trouve, de voir que, en fait, mais c'est en fait normal, mais personne ne pourra vraiment te recevoir. Jésus lui-même a dit, je n'ai pas de pierre à reposer la tête. Et je crois que, on n'est pas seul, hein. Mais c'est sûr que la souffrance, parfois, l'isole, mais,
Et donc pour comprendre encore un peu mieux, en effet, donc vous, à la fois vous assistez donc à la mort donc programmée de votre papa, et donc vous-même êtes déjà atteinte de cette même maladie, puisque voilà, pour le rappeler, c'est en 2011, quand vous avez 18 ans, que les premiers signes apparaissent de cette même maladie. Et donc à la fois chez vous et chez votre sœur jumelle. Est-ce que c'est en même temps ? Est-ce que c'est d'abord vous, puis votre sœur ?
En fait, c'est étonnant, mais les symptômes que j'ai eus ont apparu le même jour que chez ma sœur, quoi. Donc,
ah oui, jumelles.
Oui, on n'est pas jumelles pour rien, je crois.
D'accord.
Et donc, c'était très étonnant de voir à quel point, par exemple, Victor, donc mon relateur,
mon aide pour marcher, quoi. Mais elle a été chercher la même chose le lendemain à l'hôpital, ça qu'on en parle, quoi. Et puis après, on savait toutes les deux qu'on avait ça, mais on n'en a même pas parlé, quoi. Et du coup, c'est sûr que toutes les deux, pendant 4 ans, on était un peu en déni de grossesse. Et on ne voulait pas trop se rendre compte de la réalité. Donc, on voyait bien que certains symptômes évoluaient, mais on ne voulait pas...
Oui, mais t'as trop
ouais, pas les voir, quoi. Ouais. Et puis... Puis petit à petit, il y a eu un médecin qui a annoncé le verdict. Mais en fait, c'était bien parce que on est sorti un peu de cette fausse ignorance et de regarder les choses en face, quoi. Et de dire, ben voilà. Parce que c'est sûr que ça prend tellement de place dans l'histoire de la famille avec mon papa que. C'est vrai, quand je suis partie, j'ai talqué cette maladie. Moi, je veux plus en entendre parler, quoi. Plus. Et puis, voilà que je l'ai aussi. Du coup, c'est vrai que pendant plus longtemps, je voulais pas voir la réalité en face, quoi. Parce que moi, je pouvais pas la voir aussi, quoi.
En 2018, à peu près, je crois, peut-être que je me trompe sur la date, mais vous faites le choix de vivre dans une colocation Lazare. Donc, pour expliquer, c'est des colocations là, qui font cohabiter des jeunes actifs, jeunes professionnels, avec d'anciens sans-abri. Et d'ailleurs, vous y êtes toujours investi, enfin, vous avez toujours un lien fort avec cette association. Pourquoi avoir fait un peu ce choix de vivre dans cette colocation un peu... Un peu étrange, vu de l'extérieur, peut-être.
Parce que, en fait, quand j'ai appris pour la maladie, il y a un prêtre qui a fait un enseignement sur la fidélité de Dieu. Et j'étais en pleurs quand j'ai posé cette question. Et je lui ai dit, mais comment est-ce que Dieu peut être fidèle quand on voit autant de souffrance dans le monde? Il m'a regardé avec tellement de compassion, quoi. J'avais tellement le sentiment que c'était vraiment Jésus qui me consolait, quoi. Puis il m'a vraiment regardé, il m'a dit, il n'y a aucune réponse. Mais ce que je vois, c'est que dans la souffrance, il peut y avoir beaucoup d'amour. Et c'est vrai que depuis ce moment-là... Après, j'ai appris à connaître une association qui ressemble un peu à Lazare, qui envoie des jeunes dans le monde entier pour vivre une mission de compassion auprès des personnes seules, de présence du coup. Et en fait, pour moi, le fait d'avoir vécu à Lazare après, ben, ça m'a un peu confirmé dans cette idée que tout, absolument tout, va disparaître, quoi. Tout. Mais l'amour va toujours rester, quoi. Toujours. Et c'est vrai que, du coup, de pouvoir passer 2 ans auprès des plus seuls, de prendre le temps d'apprendre à les connaître, à les aimer, en fait, ben, c'était un cadeau, quoi. Et donc, Lazare, pour moi, c'était juste la continuité de ce désir et de me dire qu'en fait, on n'est pas appelé à changer la réalité des autres parce que Lazare n'a pas spécialement une envie de chiffres et de résultats indispensable à donner, mais c'est surtout être là en fait et apprendre à être et à aimer. Et pour moi, partager le quotidien et essayer de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Ouais. Et pour moi, en fait, c'est juste ça la vie. En fait. Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu vivre là. Ouais. Et le fait, en plus qu'il y avait la présence réelle. qui est Jésus avec nous, je t'aime. Et...
Donc, au sein de la colocation ?
Ouais. Ah, oui. Mais c'est vrai que ça rend du coup toute vie plus belle et plus possible, quoi.
Apprendre à être, ça, je pense que c'est une phrase, en effet, qui peut nous guider tous. Et un peu une question pour venir peut-être un peu à ce qui se passe en France, voilà, d'où aussi le fait que je vous ai tendu le micro aujourd'hui. Est-ce que vous tenez un peu au courant de, voilà, de ce qui se passe en France sur la légalisation de l'euthanasie, aujourd'hui qui n'est pas autorisée, hein, mais... Est-ce que ça vous effraie ? Enfin, qu'est-ce que vous avez peut-être un peu envie de dire ? Je ne sais pas si vous aviez un dirigeant en face de vous. Enfin, bon, votre témoignage de vie parle en lui-même, mais peut-être deux, trois vraiment alertes, peut-être, que vous voudriez un peu...
Déjà, je ne suis pas une grande informée au niveau... nouvelle... Ouais, et législation, parce que même si j'ai fait le droit, je suis pas derrière mon ordi du tout. Mais par contre, c'est vrai que juste de voir des personnes qui sont d'accord avec cette envie d'en finir, j'ai envie de leur dire, mais réveillons-nous et ayons l'audace de vivre, quoi. Enfin, ayons l'audace de dire... c'est dur, mais si on est là, c'est pas pour rien, quoi. Et osons vivre, osons aimer. Je pense qu'il y a tellement de choses à recevoir et à donner. Et on n'est pas fait pour décider de terminer quand on veut, quoi. Parce que souvent, c'est pas quand on est la reine que... les plus belles choses arrivent, quoi.
Merci beaucoup, Claire Dirx, pour votre beau témoignage. Voilà, pour La Lumière d'une Rencontre, notre podcast. Et merci, voilà, de nous réveiller, de nous donner l'audace de vivre. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La Lumière d'une Rencontre, le podcast réalisé par la revue Ombres et Lumières et la Fondation OCH. Merci de l'avoir écouté. Vous pouvez approfondir ce thème en vous procurant le numéro de la revue en allant sur ombreseslumieres.fr. À bientôt !